Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h et c'est l'heure du magazine d'information locale de Radio Saint-Afrique. Ce mardi, au programme Les transports scolaires, on entendra Dominique Goua, présidente de la FCPE de l'Aveyron. Puis Audrey nous parlera d'une conférence sur les noms et légendaires du Larzac. Elle était prévue le 6 février, mais a été repoussée à demain soir. Même lieu, même heure. Vous saurez tout dans un instant. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le salon de l'agriculture. Je n'ai pas pu y aller, mais José Bové y était aujourd'hui. Il nous en parlera à la fin de ce magazine. Les transports scolaires, où en est-on en Aveyron? Vous le savez, le Conseil général a décidé de supprimer la gratuité des transports scolaires dès la rentrée prochaine. La FCPE, la Fédération des parents d'élèves, s'indigne toujours contre cette décision. Elle a été prise sans la concertation des parents, qui sont les premiers concernés car ils vont devoir les payer. Récemment, la FCPE dénonce la situation idyllique décrite dans la presse sur le sujet, à savoir un article de Centre Presse paru mercredi dernier. Dominique Goua, présidente départementale de la FCPE.
Mais il décrit simplement un service de transport scolaire idyllique avec un ramassage très personnalisé, très peu d'enfants, dans la gaieté et la bonne humeur, en musique. Or, en fait, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a quelques lignes qui sont privilégiées, mais sur la majorité du département, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, il y a quelque chose vraiment qui m'a fait réagir, c'est que ça nous décrit une concertation. Alors, soi-disant que ces transports scolaires sont réorganisés dans la concertation avec les parents d'élèves, les élus, les transporteurs. Alors, on nous parle de considération, que c'est gratifiant, cette concertation. Moi, ça me fait bondir, puisque nous, on réclame la remise en place des commissions de transport scolaire de secteur depuis 3 ans. Depuis 3 ans, elles n'ont pas été remises en place, donc il n'y a aucune concertation. Il n'y a déjà pas eu de concertation quand la gratuité a été enlevée. Le Conseil général a décidé ça tout seul et nous a pas associés à sa réflexion. Il a mis en place, il va mettre en place à la rentrée prochaine une tarification fixe sans tenir compte des revenus des familles. On va se retrouver avec des familles monoparentales ou avec un seul salaire qui vont se retrouver avec 130 euros à payer pour un enfant, plus 100 euros pour un deuxième. Ça va être quelque chose de catastrophique. Et puis voilà, cet article bafoue complètement, nous parlant de concertation, ça me fait bondir, moi.
Dans l'article de Centre Presse, c'est une toute autre vision qui est exprimée. Je cite « On se concerte tous autour de la même table, les parents d'élèves, les élus, les transporteurs. On sent qu'on fait partie d'une grande chaîne, qu'on est pris en considération. C'est gratifiant. » Pour Dominique Goua, présidente de la FCPE, c'est le contraire.
On a été entendu, on a rencontré Monsieur Luche en septembre. On lui avait déjà parlé qu'on voulait être associé à la discussion sur l'éventuelle tarification aux familles des transports scolaires. Il nous avait dit oui, on attend toujours, puisqu'il a mis en place cette tarification fixe. On siège au CDEN où on peut émettre une opinion. Il y a eu 8 votes contre, puisque les enseignants ont voté contre aussi, donc 8 votes contre ce projet et 4 votes pour. Le projet a quand même été présenté tel quel au budget du Conseil général et il a été voté par le Conseil général sans tenir compte de notre avis.
Je rappelle qu'en septembre 2013, les familles participeront à hauteur de 130 euros pour le premier enfant, 100 euros pour le deuxième, 50 euros pour le troisième, ce sera gratuit pour le quatrième enfant et plus, et les élèves handicapés. Actuellement, les transports scolaires sont financés à 80% par le conseil régional et 20% pour les communes. À la rentrée prochaine, le financement du département baissera pour cause de contraintes budgétaires.
Les noms et légendaires du paysage, c'est le titre de la conférence proposée demain soir par le Conservatoire Templier et Hospitalier du Larzac. Christian-Pierre Bedel, directeur de l'Institut d'Occitan de l'Aveyron, vous présentera le fruit de ses recherches.
Dans notre environnement, la grande majorité des noms sont des noms occitans qui ont été légèrement francisés au niveau de la graphie, mais qui restent occitans, comme par exemple le Puech, pour dire un sommet, et qui désignent soit le relief, soit le couvert végétal. Alors demain, ça sera une présentation et est associé également au relief, au paysage, voire au couvert végétal, un légendaire très très ancien qui est décliné localement en Occitan, bien sûr, sur le territoire. Et que nous avons collecté dans le cadre des opérations Alcantou et que nous ferons découvrir en le présentant en français puisque tout le monde ne comprend pas l'occitan.
Alcantou est le nom donné au travail de collecte de mémoire mené par l'Institut Occitan de l'Aveyron. Il a donné lieu à diverses publications, une véritable mine d'or pour tous ceux et celles qui s'intéressent au passé des habitants du territoire.
On est passé dans toutes les communes du département. On a associé les écoles à un travail d'enquête, on a collecté la mémoire des anciens, on a publié un ouvrage et une cassette audio par département, avec des documents en français, des documents en occitan, et ensuite, dans un deuxième temps, on est repassé aussi partout pour filmer cette mémoire, et on a publié donc des coffrets, des DVD intercantonaux, dont un consacré à la mémoire occitane du Rouergue méridional, des 14 cantons du parc naturel régional des Grands Causses, dans lequel on va trouver, entre autres, des témoignages sur les lieux, sur le légendaire des lieux.
Et pour en savoir plus sur l'histoire des noms de famille et de lieux, les conseils bibliographiques de Christian-Pierre Bedel.
Il y a l'ouvrage de référence pour la toponymie, c'est celui de Jacques Astor. Les noms de famille, noms de lieux du sud de la France, quoi. C'est un ouvrage intéressant. Et après, surtout pour cette partie-là, je recommande le volume 1 de la synthèse Alcantou, puisque on a fait une synthèse et on a balayé pratiquement tous les noms de lieux qu'on peut trouver en Aveyron, et on les a présentés à la fois au travers du sens, par exemple les noms du relief, les noms du couvert végétal, et dans une deuxième partie de l'ouvrage, d'après l'origine de ces noms. Est-ce qu'on est sur des noms d'origine latine, celtique, pré-celtique, voilà. Donc ça, c'est vraiment d'ailleurs un ouvrage qu'on présente à cette occasion, à l'occasion de la soirée.
Christian-Pierre Bedel vous invite donc à la soirée conférence sur les noms et légendaires du paysage aveyronnais. C'est organisé par le Conservatoire Templier et Hospitalier du Larzac et c'est demain soir à la salle des fêtes de la Cavalerie à 20h30. L'entrée est libre et gratuite.
Merci Audrey, et je change de sujet maintenant, mais il y a un lien avec le Larzac, vous allez voir. Pour aller à Paris, en ce moment se déroule le 50e salon de l'agriculture et j'ai pu joindre José Bové il y a quelques minutes. Il a tenu à se présenter sur nos ondes en tant qu'habitant du Larzac et député européen du parti Europe Écologie. Qu'est-ce que représente pour vous ce salon de l'agriculture ?
Écoute, le salon de l'agriculture, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a à peu près 600 000, 700 000 personnes qui viennent tous les ans, et pour beaucoup de gens qui habitent en ville, le salon de l'agriculture, c'est un peu une rencontre avec la campagne, avec l'agriculture, avec les animaux, et donc ils attendent beaucoup, et ils viennent voir surtout la diversité dans les stands des différentes régions. Puis en même temps, d'un autre côté, c'est aussi un peu un salon du modèle agricole productiviste, celui qui malheureusement a éliminé toutes ces dernières années beaucoup de paysans et qui continue à plutôt défendre un modèle d'agriculture industrielle. Donc c'est un peu une ambiguïté ce salon, et en même temps c'est un lieu où il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Donc c'est vrai que c'est un moment important parce que c'est presque le seul moment en France malheureusement où on parle d'agriculture, donc c'est la semaine où on peut parler d'agriculture et enfin les sujets du monde rural sont sur le devant.
Justement, que viennent y faire les politiques ? Est-ce que c'est une vitrine ou c'est un lieu d'échange, d'idées, de réflexion entre vous ?
Bah, écoute, moi, je crois que c'est un lieu où, de manière maintenant incontournable depuis des années, les différentes sensibilités politiques viennent discuter de la ruralité de l'agriculture. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu dans une attitude particulière parce que pendant des années, moi, j'ai tenu un stand, le stand de la Confédération paysanne au Salon de l'agriculture. Et maintenant, en tant que député européen, c'est vrai que je viens pour parler avec les agriculteurs, éventuellement aussi avec les formations politiques, des débats agricoles, que ce soit la politique agricole commune dont on est en train de discuter la réforme, ou que ce soit les différentes crises sanitaires, comme l'histoire du cheval, l'histoire de toutes ces dérives auxquelles on assiste. Donc voilà, c'est un lieu effectivement où on discute de tout ça.
D'accord. Et est-ce que ça reflète la réalité du monde paysan, selon vous, en France ?
Alors, c'est bien le problème, c'est qu'en fait, le salon se veut un peu une vitrine à la fois des meilleurs animaux, des plus gros tracteurs, un peu de ce qui se fait de plus. Et en même temps, il y a aussi la diversité des régions qui est montrée avec les produits locaux. Alors c'est assez singulier, c'est que pour la majorité des régions, montrer l'agriculture et sa diversité, c'est parler des produits locaux, c'est parler des produits fermiers, c'est parler de tout ce qui est appellation d'origine contrôlée, etc., etc. Et en même temps, on a cette démonstration de puissance de l'autre côté. Donc c'est un peu un paradoxe, ce salon, pour ça. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas forcément représentatif de la majorité des paysans.
Et donc, est-ce que pour le grand public donc qui s'y rend à ce salon parisien par exemple, est-ce qu'il peut vraiment se rendre compte de ce que c'est un paysan ? Est-ce que ça, vous pensez que c'est, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens maintenant qui sont en ville et puis depuis plusieurs générations qui n'ont plus de lien avec le monde rural, c'est souvent la seule occasion de discuter ou de rencontrer des paysans. Alors évidemment, ça reste très superficiel souvent parce que ça peut être orienté, puisque les gens qui viennent présenter des animaux, qui sont sur ces stands, c'est très particulier. C'est des gens qui sont plutôt dans la vouloir démontrer des animaux, celui qui fait le plus de lait, celui qui a la meilleure conformité. Donc c'est un certain état d'esprit. En même temps, il y a tous ces stands de produits fermiers qui, eux, sont une diversité des territoires. Donc, je dirais que celui qui vient, s'il est capable de rester là assez longtemps, peut aussi rencontrer des paysans. Il y a aussi les stands des syndicats. Donc, la Confédération paysanne a son stand comme les autres organisations syndicales. Donc, on est en capacité de pouvoir rencontrer des paysans. Mais c'est vrai que c'est malgré tout la seule vitrine de ce moyen-là. Moi, ce que je dirais plutôt aux gens, c'est ce que je leur dis quand je leur dis, venez dans les campagnes, venez nous rencontrer sur les fermes, venez voir les paysans là où ils vivent.
D'accord. Et est-ce que ce salon de l'agriculture a un impact sur les décisions européennes ?
Non. Alors ça, très clairement, non. Le salon de l'agriculture n'aura pas du tout ne sert pas de contre-pouvoir à la Commission européenne ou aux États. Simplement, c'est un état des lieux. Alors, en plus, cette année, c'est vrai qu'on aurait pu, puisqu'on est en plein dans le débat sur la réforme de la PAC, de la politique agricole commune, beaucoup de discussions tournent autour de ça. Mais en même temps, le salon n'est pas un lieu où se font les décisions. C'est plus un lieu, éventuellement, où on peut confronter les différentes positions et où, par rapport justement parfois aux journalistes qui sont présents, ça permet aussi d'orienter les débats et de montrer un peu quelles sont les grandes fractures, pourquoi cette réforme va pas dans le bon sens, pourquoi il faudrait aller faire plus de verdissement, mieux réformer les aides, mieux redistribuer les aides. Donc tous ces débats peuvent avoir lieu. Donc c'est un moment aussi qui peut servir de forum.
C'était José Bové, député européen pour Europe Écologie. Il était aujourd'hui au Salon de l'agriculture à Paris. Je rappelle que ce salon a commencé samedi dernier et qu'il se tient jusqu'au 3 mars. « c'est la fin de ce magazine d'information locale. Merci à Philippe, notre technicien. Rendez-vous demain à 18h en direct pour de nouvelles informations locales. À suivre l'agenda, suivi de la chronique de la Maison de la Mémoire. À 20h, Radio Cartable. Et à 22h, les vilaines histoires de Jean Vilain. Bonne soirée sur Radio Sainte-Afrique.